Saint-Esprit et de son œuvre, à suivre la lecture d'un assez long passage dans l'épître de l'apôtre Paul aux Romains, un chapitre magnifique, le chapitre 8, et je lirai les 17 premiers versets. Je lis dans la version qui vient de paraître, la nouvelle Bible Second. Je vous invite à considérer moins cette nouvelle traduction, Bible d'études, donc avec des notes et des aides diverses très abondantes. Je lis donc dans la nouvelle Bible Second, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, les 17 premiers versets. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de la vie en Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu, en envoyant son propre Fils dans une condition semblable à la chair du péché, en rapport avec le péché, a condamné le péché dans la chair, pour que la justice requise par la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, ceux qui sont sous l'emprise de la chair s'accordent aux tendances de la chair, tandis que ceux qui sont sous l'emprise de l'esprit s'accordent aux tendances de l'esprit. Or, la chair tend à la mort. L'esprit, lui, tend à la vie et à la paix. Car la chair tend à s'ériger en ennemi de Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle en est même incapable. Ceux qui sont sous l'empire de la chair ne peuvent plaire à Dieu. Quant à vous, vous n'êtes pas sous l'empire de la chair, mais sous celui de l'esprit. S'il est vrai que l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Or, si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a réveillé Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a réveillé le Christ d'entre les morts fera aussi vivre vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, mes frères, nous sommes bien débiteurs, mais non pas envers la chair, pas pour vivre selon la chair. En effet, si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les agissements du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage qui ramène à la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption filiale par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ, s'il est vrai que nous souffrons avec lui pour être aussi glorifiés avec lui. Jusqu'ici notre lecture. Est-ce que notre sœur, mademoiselle Dioline, voudrait nous conduire dans la prière ? Jésus-Christ est Emmanuel, Dieu avec nous. Il est Dieu pour nous, puisqu'il est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité pour qu'il puisse, comme le nouveau chef de l'humanité rachetée, nous communiquer sa vie. Mais il est remonté au ciel. Comment s'opère effectivement dans notre vie ce que Jésus-Christ a acquis pour nous, ce dont il a payé le prix, ce qu'il a rendu possible? C'est là l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu en nous. Le Saint-Esprit, c'est Dieu opérant dans notre vie ce qui a été obtenu par la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus. Il y a deux missions divines. Car avant que nous puissions parler de mission des chrétiens envoyés dans le monde, Dieu s'est envoyé lui-même. Dieu est le premier missionnaire. Et il l'est deux fois. Dieu le Fils a été envoyé en mission pour payer le prix de notre rédemption. Et Dieu le Saint-Esprit a été envoyé en mission après le Fils pour appliquer l'œuvre du Fils. Pour que le fruit de l'œuvre du Fils devienne une réalité dans la vie de ceux pour qui Jésus-Christ est mort et ressuscité. Cette vision des deux missions divines est très claire, en particulier dans les discours de Jésus juste avant de quitter ses disciples, avant de souffrir dans la chambre haute, et que nous avons ces discours au chapitre 14 à 16 de l'évangile selon Jean. Jésus leur dit « Je vais vous quitter ». Et leur cœur est rempli de tristesse. Mais Jésus leur dit, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en allais pas, je ne vous enverrais pas celui qui va venir, en quelque sorte, me remplacer. Il est appelé l'autre. Alors le terme qui est utilisé dans l'original est un terme sur la traduction duquel on a beaucoup débattu. Alors je vous dis d'abord le mot grec dans l'original, parakletos. Je vous enverrai l'autre parakletos, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Jésus est le premier parakletos, sinon il ne dirait pas « je vous enverrai l'autre ». Et c'est le titre qui lui est donné dans la première épître de Jean. « Si quelqu'un a péché, nous avons un parakletos auprès du Père, Jésus-Christ le Juste ». Le mot veut dire ordinairement, en grec, avocat. Et vous avez l'habitude, dans la première épître de Jean, d'entendre la traduction avocat. Nous avons un avocat auprès du Père. Et maintenant, en utilisant le même mot, Jésus dit à ses disciples, je vous enverrai l'autre avocat. Malheureusement, parce que je crois que c'est une faute, malheureusement, beaucoup de traductions anciennes utilisaient le mot consolateur. Le mot ne veut pas dire consolateur en grec. Et donc beaucoup de chrétiens ont l'habitude, et même c'est dans nos cantiques, d'utiliser le titre consolateur en traduction de ce terme dans les chapitres 14 et suivants de l'évangile de Jean. Mais ce n'est pas la meilleure traduction. Bien sûr, le Saint-Esprit nous console aussi, mais ce n'est pas ce que veut dire le titre. C'est l'autre avocat ou, et c'est là le choix qu'a fait la Bible du Semeur, qu'a fait aussi la Nouvelle Bible Second, les deux dernières traductions, donc, qui sont disponibles pour nous, le mot défenseur peut être utilisé. L'avocat, c'est le défenseur, hein, on dit un défenseur aussi pour un avocat. La situation qui est d'abord en vue, c'est celle du tribunal. Il est le défenseur des fidèles, de ceux qui mettent leur confiance en lui, au tribunal de Dieu, alors que le diable est l'accusateur. Jésus-Christ est le premier défenseur, notre avocat. Et le Saint-Esprit est l'autre défenseur. Et puis, ce n'est pas seulement le tribunal de Dieu, mais il y a aussi le tribunal du monde, de l'opinion publique. Et le Saint-Esprit est tout spécialement notre défenseur aussi, face aux jugements et aux accusations que porte le monde autour de nous. Et vous voyez, il y a très clairement deux missions. Le premier défenseur qui est venu à notre aide et qui, dans les cieux, continue de s'occuper de nos affaires. Il intercède pour nous. Et puis l'autre défenseur qui nous est donné, qui est présent parmi nous, en nous, deuxième mission divine. Car il s'agit non pas d'une simple influence, il s'agit, comme dans le cas de Jésus, d'une personne. Mais il est troisième, là où Jésus est deuxième, dans la Trinité divine. Dieu a un nom, baptisé au nom de singulier. Dieu a un nom, mais ce nom est triple. C'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Il y a dans l'unité de la vie divine, et nous avons eu l'occasion déjà de toucher ce sujet en nous rappelant les fondements de la foi, Dieu, dans l'unité divine, est aussi trois. Père, Fils et Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'est pas un parmi les esprits créés, parce qu'il y en a, il est Dieu lui-même, le Saint-Esprit, le mot saint a toute la force qu'il peut avoir. Il est Dieu comme Jésus lui-même est Dieu qui s'est incarné. Alors nous ne pouvons pas, dans le temps que nous avons aujourd'hui, vraiment considérer tous les éléments qui constituent la doctrine du Saint-Esprit et de son œuvre. Je suis obligé de sélectionner. Alors j'ai sélectionné ceci pour nous rappeler l'essentiel de l'enseignement biblique. D'abord, je voudrais passer en revue les images clés que l'Écriture emploie pour nous parler du Saint-Esprit, parce qu'elles nous permettent de comprendre qui il est et de quelle façon il œuvre dans notre vie. Il y a six images privilégiées, il y en aurait peut-être encore d'autres si on cherchait bien, mais bon, en tout cas six que je vais passer en revue, qui nous permettront de comprendre quel est le Saint-Esprit. Puis, ayant passé ces images en revue, je voudrais souligner les grands axes de l'action de l'Esprit, avec quatre titres qui lui sont donnés dans les Écritures, et puis finir par les moments clés de l'œuvre de l'Esprit dans notre vie. Je sais que le temps passe toujours très vite, donc peut-être n'aurai-je pas beaucoup de temps pour le dernier point, mais je voudrais laisser quelques minutes pour des questions éventuelles qui pourraient concerner aussi ces éléments-là. Mais je donne d'abord donc du temps à l'examen des images ou des symboles bibliques du Saint-Esprit. Le premier, je vais faire un petit dessin. Est-ce que ça vous suggère? Le vent. Et voilà, c'est le vent. Et oui, c'est le premier symbole du Saint-Esprit auquel on pense très peu, parce que c'est dans le mot lui-même. Le mot qui est traduit « esprit » peut se traduire aussi, en hébreu comme en grec, « le vent ». C'est le même terme. L'esprit, c'est le souffle. Alors, c'est peut-être le souffle intérieur d'un individu, mais aussi le vent. Le vent qui souffle. Et le souffle de Dieu est tellement fort qu'il est comparé facilement au vent. L'esprit, c'est le vent de Dieu. Et nous avons un passage que vous connaissez bien, où Jésus joue précisément sur ce double sens du mot. Le vent, l'esprit. Il parle à Nicodème, au chapitre 3 de l'évangile selon Jean, de la nouvelle naissance, de la naissance d'en haut. Et Nicodème dit, mais comment, c'est pas possible. Et Jésus dit, le vent, tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Tu en entends le bruit. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Le vent est pris comme symbole de l'esprit. Le vent invisible. On ne peut pas voir le vent. Qu'est-ce qu'on voit? On voit les effets du vent. Tu en entends le bruit, tu vois qu'il y a du vent parce que les objets sont courbés, parce que le drapeau flotte dans un sens. Le vent, invisible en lui-même, est perceptible par ses effets. Et le vent peut déployer une très grande puissance. Pensez encore à la tempête d'il y a 2 ans et quelques. Le vent représente une grande puissance, invisible, mais visible par ses effets. Et puis en même temps, passablement imprévisible. Tu ne sais ni d'où il vient, ni d'où il va. Certes, on peut faire quelques prévisions, mais c'est à très brève échéance. Et les savants aujourd'hui, avec la théorie des états chaotiques, vous avez des théories du chaos, nous disent que finalement on ne pourra jamais prévoir à très long terme le temps qu'il va faire, donc les vents. Il y a tellement de facteurs que mathématiquement on peut prouver qu'on ne pourra pas dépasser une limite de 15 ou 3 semaines quand on aura des instruments de calcul et d'observation d'abord pour nourrir les calculs, même encore bien plus puissants qu'aujourd'hui. Ça c'est le mystère. Le mystère de la liberté de l'esprit que suggère le vent. L'esprit est comme le vent de Dieu, une puissance mystérieuse, libre, Ça ne veut pas dire capricieuse. Les vents sont parfois capricieux, mais l'Esprit n'est pas capricieux. Jamais la Bible ne nous suggère que le Saint-Esprit soit capricieux. Justement, il est le Saint-Esprit. Mais nous ne sommes pas capables de dire exactement comment il va agir, quand il va souffler. Le réveil, comme on dit, c'est aussi un moment où l'Esprit choisit de souffler dans sa souveraine liberté, d'une manière plus forte, avec des effets plus spectaculaires que d'habitude. S'il lui plaît, nous souhaitons qu'il le fasse. Le Saint-Esprit est le vent de Dieu. Ça, c'est le premier grand symbole. Associé de près à ce symbole, il y a... Je ne pense pas que j'ai la couleur voulue, peut-être. Si, je vais trouver. Vous devinez ce que c'est, quand même, malgré les difficultés du dessin. Deuxième grand symbole, c'est l'eau. L'eau est pensée à une cascade puissante, pensée aux chutes du Niagara. C'est le deuxième grand symbole de l'Esprit dans de très nombreux textes de l'Écriture et aussi dans ce chapitre 3 de l'Évangile de Jean. Car Jésus dit à Nicodème, avant de parler du vent, quiconque est né d'eau et esprit. Il ne dit pas, remarquez si on traduit très littéralement, de l'eau et de l'esprit, mais d'eau et esprit. Ça veut dire de l'esprit comme une eau. Et c'est certainement une allusion à une prophétie d'Ézéchiel, Ézéchiel 36. Le vent représente une allusion à Ézéchiel 37, en fait. Dans Ézéchiel 37, esprit souffle des quatre vents et que ses morts revivent. La vie nouvelle. En Ézéchiel 36, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je répandrai mon esprit sur vous. L'eau est là le symbole de l'esprit que le Seigneur répand. Et c'est un thème alors qui est très fréquent dans les Écritures. Au chapitre 44 d'Ésaïe, par exemple, Dieu dit qu'il fera couler des fleuves sur la terre desséchée, qu'il répandra son esprit sur la descendance des patriarches. Donc là, l'esprit est comparé à des fleuves fertilisants. Jésus emploie cette image du fleuve en disant « Le jour de la fête des tabernacles, au moment de la fête des tabernacles, où on faisait un rite d'eau à Jérusalem, il y avait une procession, on versait de l'eau en souvenir du jaillissement d'eau vive miraculeuse au désert lors de l'Exode. La fête des tabernacles rappelait l'Exode. Et pendant l'Exode, Dieu avait étanché la soif de son peuple en faisant jaillir de l'eau du rocher. Et on le rappelait lors de la fête, on disait aussi, Ésaïe 12, « Puisez avec joie de l'eau aux sources du salut. » Et Jésus dit, à ce moment-là, celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Selon l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Et l'évangéliste nous explique, il disait cela du Saint-Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En croyant au Fils, nous laissons les fleuves d'eau vive qui viennent de lui nous remplir. Donc l'image de l'eau est une image très présente. C'est elle qui donne l'occasion d'un usage assez spécial. On parle de verbes liquides. C'est pas les verbes qui sont liquides, mais des verbes qui évoquent un liquide. Je répandrai mon esprit, comme si c'était de l'eau. On répand de l'eau. Répandre, déverser. Et le jour de la Pentecôte est appelé le jour de l'effusion du Saint-Esprit, c'est-à-dire du déversement du Saint-Esprit. Dieu répand son esprit par des cataractes célestes du ciel, les fleuves d'eau vive qui viennent du Seigneur qui est au ciel. Ces fleuves d'eau vive se déversent sur la terre. Alors le symbolisme de l'eau, il est double. Il y a le symbolisme du nettoyage. a quand même pas tellement de meilleure façon de se nettoyer que de se mettre sous la douche, de prendre un bon bain. Donc je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Et puis il y a le symbolisme de la vie. En particulier en Orient, quand il y a de longues périodes de sécheresse, la terre est craquelée, il n'y a plus rien. Et puis arrive un énorme orage avec des fleuves d'eau vive qui se déversent. Et tout à coup, en quelques heures, c'est vert partout, c'est incroyable. L'eau engendre la vie. Et c'est là l'œuvre qui est attribuée au Saint-Esprit. Alors d'où ça vient l'eau ? Ça vient du sombre nuage. Et c'est le troisième symbole important du Saint-Esprit dans l'Écriture. C'est un peu moins fréquent que les deux précédents, mais c'est aussi, je crois, très intéressant à observer. La nuée, ça veut dire le nuage, la nuée, c'est un symbole de l'Esprit. Vous savez que Dieu avait donné pour signe de sa présence au peuple d'Israël lors de l'Exode, un gros nuage en forme de colonne, un peu comme quand il y a un cyclone, hein, c'est une colonne de nuée qui marquait sa présence. Et que nous ayons là un symbole du Saint-Esprit, c'est, je crois, suffisamment prouvé par deux passages de l'Ancien Testament. Dans le livre d'Agé, au chapitre 2, verset 5, il y a une forme d'expression dans l'original qui montre que c'est la colonne du temps de l'Exode qui est en cause. Et Agé dit, je mets mon esprit au milieu de vous. Là, c'est en quelque sorte décodé, la colonne représente l'esprit. Et je pense qu'on peut tirer la même chose, je n'entre pas dans le détail, aussi du passage d'Ésaïe 63, où le rôle de la colonne, qui marquait la présence de Dieu au milieu du peuple et qui le guidait, est attribué au Saint-Esprit. Donc, nous avons là des preuves suffisantes, et dans le Nouveau Testament, nous le retrouvons. L'apôtre Paul dit, au chapitre 10 de la première aux Corinthiens, que tous les enfants d'Israël, en sortir d'Égypte, ont été baptisés, pour Moïse, dans la nuée et dans la mer. C'est une allusion au double baptême dont nous allons reparler, dans le Saint-Esprit et dans l'eau. Dans l'image, la nuée les a enveloppés et séparés du camp des Égyptiens. Ils ont été enveloppés de cette nuée qui marquait la présence de Dieu, baptisés dans l'Esprit. Et puis ils sont passés à travers la mer, entre les étendues d'eau à gauche et à droite, et ça c'était comme une figure du baptême d'eau. Ils ont été donc baptisés par rapport à leur chef, Moïse, comme nous le sommes par rapport à notre chef, Jésus-Christ, dans la nuée et dans la mer. Et puis lors de la transfiguration, nous avons une scène trinitaire. Le Père salue le Fils et l'Esprit est présent sous la forme de la nuée. Donc, ce thème de l'Esprit comme la nuée est aussi présent dans le Nouveau Testament. Alors, que signifie-t-il, ce symbole de la nuée ? Je pense que, de nouveau, il nous marque à la fois l'invisibilité de Dieu, le mystère qui demeure, et le fait que Dieu, cependant, veut être présent parmi nous sur la terre et marquer concrètement sa présence. Dans la sombre nuée, on n'y voit pas très clair. Et lorsque la sombre nuée, lors de la dédication du temple de Salomon, renvahit le temple, la présence de Dieu qui entrait dans son temple, c'est la nuée. Salomon a dit, Dieu veut habiter dans l'obscurité, dans la sombre nuée. Il demeure un mystère. Nous ne pouvons pas prétendre le mettre dans notre poche, dominé par la pensée, ce Dieu mystérieux. Il est un mystère, mais il est présent. Et il guide, comme la colonne de nuée guidait le peuple d'Israël. Donc c'est un symbole aussi qui est très riche, qui correspond au rôle du Saint-Esprit. Et puis la nuée, rappeler ce qui arrivait au moment de la nuit. La nuit était noire pendant le jour, et elle protégeait un peu d'ailleurs de l'ardeur du soleil pendant le désert, mais la nuit, elle devenait colonne de feu. Et le quatrième symbole du Saint-Esprit, c'est le feu. Un symbole que d'ailleurs Dieu a utilisé, comme celui du vent, le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, un vent violent dans la maison, et puis des flammes, des langues de feu, mais ça veut dire des flammes, hein, qui se sont posées sur les 120 qui attendaient l'effusion du Saint-Esprit. Le feu est un grand symbole du Saint-Esprit, de nouveau, tout au long de la Bible, et Jean-Baptiste pouvait le joindre, comme Jésus a dit, d'eau et esprit, parce que l'esprit comparé à une eau, Jean-Baptiste a dit, celui qui va venir vous baptisera d'esprit et de feu. Le feu, symbole de l'esprit. Et il y a plusieurs passages, très impressionnants d'ailleurs, dans le livre d'Ésaïe, qui développe le thème du feu et du torrent de feu. Alors que signifie ce symbole, le symbole du feu? Très clairement dans l'Écriture, il signifie d'abord le jugement. Le feu consume tout ce qui est sans valeur, tout ce qui ne tient pas. Sous l'examen du juste juge de la sainteté qui est comme un feu. Le feu détruit ce qui est contraire à Dieu. Alors il le détruit dans le feu éternel. Mais il le détruit, et là c'est l'action du Saint-Esprit, dans la vie présente, il le détruit aussi dans la vie de ceux qui sont sauvés, parce qu'ils ont besoin d'être purifiés de ce qui est contraire à Dieu, de ce qui n'est pas conforme à sa propre sainteté. Et le Saint-Esprit est d'abord un feu comme celui qui sanctifie, celui qui élimine toutes ces impuretés, toutes ces saletés. Nous avons des usines d'incinération pour les ordures. C'est par le feu qu'on traite les ordures. Et le Saint-Esprit traite nos ordures par le feu, pour nous purifier, pour que nous soyons purs comme le Seigneur lui-même est pur. Ça, c'est le quatrième grand symbole. Alors, il est intéressant de se rendre compte que ces quatre symboles ont une seule et même origine, en un sens. On les trouve réunis, en tout cas, dans une même vision, c'est celle de l'orage. La manifestation de Dieu, lorsqu'il se montre à son peuple, au Sinaï, par exemple, ou dans le psaume 18, on peut lire la première partie du psaume 18, est comparée à un orage. Dans l'orage, il y a le vent. Dans l'orage, il y a les sombres nuages et la pluie qui peut se mettre à tomber à torrent. Et puis il y a le feu des éclairs. Le feu, c'est d'abord celui des éclairs. C'est la foudre. Donc, ces quatre éléments viennent de cette grande image de la révélation de Dieu. Et cela nous apprend encore quelque chose de plus sur notre Dieu. Il me semble que cela nous apprend... D'abord, son infinie supériorité, une puissance qui dépasse tout ce qui est à notre mesure. Un gros orage, et surtout, paraît-il, de nouveau en Orient. Mais c'est terrifiant. Vraiment, nous les humains, qui sommes tellement fiers de nos réalisations, nous nous rendons compte que nous sommes vraiment de tellement peu de choses quand il y a un gros orage, un ouragan. Qui traverse toute la campagne. Donc l'infinie supériorité de Dieu, et puis, de nouveau, sa volonté d'intervenir, le fait qu'il ne reste pas au ciel. Les orages, c'est sur la terre. Dieu se révèle sur la terre. Il veut montrer quel il est. Donc quatre symboles, vous voyez, extrêmement riches. Vous comprenez pourquoi j'ai voulu prendre le temps de les montrer. Alors il y en a deux autres qui ne dérivent pas de l'orage, pour autant que je vois en tout cas, qui ne sont pas spécialement associés à cette vision-là, mais qui sont quand même intéressants aussi. Il y a le symbole de l'huile. Alors là, il faudrait que j'ai un feutre argenté. J'ai pas voulu faire simplement une bouteille, alors vous reconnaissez des olives. Feuilles d'olivier, quelques olives, parce que c'est de l'huile d'olive que l'on a en Israël. L'huile est un symbole de l'esprit, en particulier lorsque le thème de l'onction est mis en avant. Les serviteurs de Dieu de l'Ancien Testament, qui ont un rôle spécial, sont oints. C'est le verbe, c'est oindre, donc, et le nom, c'est onction. C'est-à-dire qu'on leur passe de l'huile dessus. Oindre, c'est verser un peu d'huile, la frotter. Le mot même de Messie vient de là. Le mot même de Messie, ça veut dire oint. Le Saint-Esprit est représenté comme, au plan spirituel, l'équivalent de cette huile symbolique de l'onction des prêtres, du grand prêtre en tout cas, du roi, et aussi de certains prophètes au moins. Et le fait qu'il s'agisse d'un symbole du Saint-Esprit est clair au début d'Ésaïe 61. Car le prophète, je crois que c'est le Seigneur Jésus qui d'avance parle dans cette prophétie, dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint ». Donc l'onction, c'est l'onction du Saint-Esprit. Et dans le Nouveau Testament, il est dit que le Seigneur Jésus a été oint, ayant été revêtu de l'Esprit, et que nous sommes oints du Saint-Esprit. Nous avons reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Nous aussi, nous avons part à ce privilège de l'onction. Alors, que signifie le symbole de l'huile pour l'esprit? Il me semble qu'il correspond à une double fonction, qui est bien celle de l'esprit, la fonction de guérison et la fonction de préparation, soit au travail, soit au combat. Il n'y avait pas toute la pharmacopée de notre modernité. Et l'huile était très importante pour adoucir les plaies, pour aider à la cicatrisation. Et dans la parabole du bon samaritain, vous vous rappelez que le bon samaritain verse sur les plaies du pauvre homme à demi-mort auquel il est venu en aide, de l'huile pour adoucir, et puis du vin, l'alcool, pour assainir, pour empêcher que ça s'infecte. Du désinfectant et l'huile pour adoucir, pour permettre le processus de guérison. L'Esprit de Dieu opère la guérison dans notre vie. La guérison intérieure, la guérison du corps, s'il le veut, il peut le faire, mais il le fera pleinement au terme. Et puis d'autre part, on se mettait de l'huile pour se préparer au combat, même chez les Grecs aussi, ça se faisait beaucoup, chez Homère, on le voit. Avant la lutte, on soignait d'huile, et même pour le travail. L'huile assouplit la musculature, permet de bien supporter le soleil. C'est un peu comme de l'embrocation, certaines pommades que nous utilisons quant à nous. Donc l'huile rend apte au combat ou au travail, et le Saint-Esprit nous rend apte au combat et au travail. Voilà une de ces grandes fonctions que le symbole de l'huile veut évoquer. Et puis le dernier que je considère, alors là vraiment je devrais appeler au secours monsieur Jacques Richard, j'essaye d'imiter la magnifique. Voilà, vous reconnaissez quand même la colombe, vous êtes gentil. La magnifique colombe qu'a réalisée pour la série Cantus Domini, notre frère Jacques Richard, vous l'avez vu. Et oui, c'est le dernier symbole. En fait, on ne trouve qu'une fois pour le Saint-Esprit. On le trouve seulement dans le récit du baptême de Jésus au Jourdain, par Jean-Baptiste. C'est l'autre scène trinitaire. Il y a un équilibre dans le récit des évangiles. Il y a deux scènes qui se correspondent tout à fait, où le Père parle du ciel en saluant son Fils comme son Fils. Il y a la transfiguration et il y a le baptême au Jourdain. Et dans les deux scènes, il y a les trois personnes de la Trinité. Il y a le Père qui parle du ciel, il y a le Fils qui est l'objet de la parole qu'il lui adresse, et il y a le Saint-Esprit. La nuée, lors de la transfiguration, est une colombe, une forme de colombe, lors du baptême au Jourdain. Autrement, peut-être, y a-t-il déjà une suggestion de cela au deuxième verset de la Bible ? Parce que le verbe employé pour l'esprit au-dessus des eaux, dans le deuxième verset du premier chapitre de la Genèse, est un verbe utilisé normalement pour un oiseau. C'est le vol plané avec léger frémissement des ailes. Donc, une association peut-être déjà de l'esprit avec l'oiseau. Mais c'est tout spécialement donc le récit du baptême de Jésus au Jourdain qui peut être évoqué. Alors, que signifie le symbole de la colombe, qui est associé au vent, bien sûr, mais je pense que la clé, c'est le souvenir du déluge, où il y a eu aussi beaucoup d'eau, une scène liée à de l'eau. Vous vous rappelez le rôle de la colombe? Elle a été la messagère de la bonne nouvelle, le déluge, c'est fini. Elle a été la messagère du message de la délivrance, de la nouvelle création, du renouveau de la création, après que le jugement était passé. Noé, pour savoir si ça commençait à sécher, si les eaux descendaient, a envoyé une colombe, elle est revenue. Il a renvoyé la colombe, elle est revenue avec un rameau d'olivier. Et alors Noé a su que ça y était, que le temps de l'épreuve touchait à sa fin. Et puis il l'a renvoyé une autre fois, elle n'est pas revenue, ça c'était clair, il pouvait maintenant retrouver la terre sèche. Donc la colombe est la messagère de cette bonne nouvelle du salut. Et je pense que c'est pour ça que le Saint-Esprit est représenté par une colombe dans la scène du baptême de Jésus au Jourdain. Un ensemble, vous voyez, qui nous permet déjà de comprendre quelque chose de l'œuvre de l'Esprit. Alors je passe maintenant, et là il y aura moins de dessins, j'ai fait ce que j'ai pu. Je passe maintenant aux grands axes de l'œuvre de l'Esprit. Et là, je vais l'écrire simplement. L'Esprit est esprit de vérité. Je pense que c'est le premier axe qu'on peut évoquer à son propos. C'est le titre que Jésus lui donne dans ses discours d'adieu à la chambre haute. Il est le défenseur, l'esprit de vérité. Et je pense qu'on peut dire que c'est ainsi que le Saint-Esprit se démarque de tous les autres esprits. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu, si c'est le Saint-Esprit, l'esprit de vérité, ou si ce sont les esprits d'erreur. L'esprit de Dieu, tel que la Bible nous le révèle, a partie liée avec la vérité. Il a souci de la vérité, il travaille dans et par la vérité. Voilà le premier point qu'il faut, je crois, mettre en relief. Pour beaucoup de gens, je le crains au moins, s'intéresser à l'esprit, c'est être moins attentif à la question de la vérité. Ce qui importe avec l'esprit, c'est qu'on sent que ce soit très très spectaculaire, qu'on se roule par terre. Est-ce que la vérité, il semble qu'on l'escamote quelque peu lorsque l'on s'intéresse au Saint-Esprit. C'est pas comme ça dans la Bible. Il est l'esprit de vérité. Il est l'esprit de prophétie qui parle par les prophètes et qui utilise comme son instrument la parole de Dieu. L'épée de l'esprit, dit l'Épître aux Éphésiens chapitre 6, c'est la parole de Dieu. L'apôtre Paul, dans un autre passage encore, au chapitre 12 de la première Épître aux Corinthiens, dans les premiers versets, contraste l'expérience religieuse que les Corinthiens avaient faite autrefois dans le paganisme. Il leur dit, vous vous rappelez ? Vous étiez entraînés comme irrésistiblement, c'était des expériences puissantes, hein, vers des idoles muettes. Et là, pas de souci de vérité, pas de doctrine, pas de parole qui permettent de prendre ses responsabilités. Une expérience obscure vers des idoles muettes. Eh bien, dit l'apôtre Paul, aussi sûr, moi je paraphrase un petit peu parce que je crois que c'est son sens, aussi sûr que personne ne peut dire « Maudit soit Jésus » sous l'influence de l'Esprit de Dieu. Personne ne peut dire « Jésus est Seigneur » si ce n'est par l'Esprit. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Ce qui prouve la présence du Saint-Esprit, c'est la parole claire de confession de la foi. « Jésus est Seigneur ». Alors bien sûr, si quelqu'un le dit seulement des lèvres hypocritement, c'est pas le Saint-Esprit, mais Paul suppose que c'est dit en vérité. Si c'est dit en vérité, c'est le Saint-Esprit. C'est comme ça que le Saint-Esprit se montre. L'Esprit est l'Esprit qui œuvre par la parole, uni à la parole. Il est le souffle de Dieu qui porte la parole de Dieu, comme notre souffle à chacun porte notre parole. Et ce n'est pas pour rien que les flammes de la Pentecôte avaient la forme de langue et ont donné la capacité de parler à ceux sur lesquels elles se sont posées. Donc ça, c'est un premier très important, des axes de l'activité de l'Esprit, qui comprend, entre autres, l'inspiration de l'Écriture. Si nous avons la parole de Dieu sous une forme pure, enregistrée pour nous, mise par écrit de façon qu'elle soit toujours là, présente dans la Bible, c'est que l'Esprit a agi en ces hommes qui ont parlé et qui ont écrit. C'est ce que la doctrine de l'inspiration des Écritures énonce. Donc ça, c'est le premier grand axe, l'esprit de vérité. Deuxième grand axe, et cela se marque de deux façons principales, je crois qu'il faut aussi le souligner, par la nouvelle naissance qu'il produit, il nous régénère, ça veut dire qu'il nous réengendre. Hein. Le mot générer, c'est le même que engendrer. Nous sommes à nouveau engendrés. Nous sommes régénérés. C'est pas comme la régénération simplement d'un adoucisseur d'eau. Hein. C'est un réengendrement par l'esprit de vie qui nous donne la vie que nous avions perdue par le péché. Et puis ensuite, il y a le renouvellement. Dans l'épître à Tite, chapitre 3, verset 5, il est question du bain de régénération et de renouvellement du Saint-Esprit. Nous sommes au bénéfice d'une vie nouvelle, à partir du premier moment, je vais y revenir dans un instant, mais c'est pas le tout, c'est pas fini à ce moment-là. Il y a un renouvellement continuel de la vie de l'Esprit. Nous devons vivre par l'Esprit chaque jour. Il y a une fourniture de l'Esprit. Dieu nous approvisionne en Esprit. Ce sont des traductions possibles de ce qu'on en trouve dans l'Épître aux Galates, au chapitre 3. Je vais regarder quelle est la traduction dans cette version, donc Nouvelle Bible Seconde. Au début du chapitre 3, oui, c'est la traduction, la même que dans la traduction seconde, là nous n'avons pas changé. « Celui qui vous accorde l'Esprit et opère des miracles parmi vous, le fait-il en vertu des œuvres de la loi ou parce que vous avez entendu le message de la foi ?» Mais le mot « accorder » pourrait se traduire « approvisionner ». Oui. Ce qui montre bien qu'il ne s'agit pas simplement d'un premier moment, mais de la continuité de la vie chrétienne. C'est comme ça aussi que je comprends pour ma part la parole de Jésus dans l'évangile de Luc. Si votre gosse vous demande du pain, vous n'allez pas lui donner une pierre. S'il vous demande un œuf, vous n'allez pas lui donner un scorpion. Vous lui donnez de bonnes choses. Alors que vous êtes pourtant par nature tellement méchant, égoïste et tout. À combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Comme il s'agit de l'image du pain de chaque jour, demandé par l'enfant à son père, je crois que ça a référence à cet approvisionnement continuel de l'esprit qui nous est accordé. L'esprit de vie est esprit de vie tout au long. Et il le sera suprêmement au bout. Car la dernière œuvre vivifiante de l'esprit, ce sera qu'il vivifiera aussi nos corps mortels que nous ressusciterons par sa puissance. Et c'est ce que l'apôtre Paul disait dans le chapitre de l'Épître aux Romains que nous avons lu. Celui qui a éveillé Jésus-Christ d'entre les morts, parce que la résurrection c'est comme un réveil, la mort étant comme un profond sommeil, donc c'est l'image du mot utilisé, celui qui a réveillé Jésus d'entre les morts rendra la vie à vos corps mortels. C'est là notre espérance, c'est l'œuvre vivificatrice de l'esprit. Troisième grand axe, esprit de sainteté. Ce n'est pas une façon de parler très fréquente dans l'Écriture, mais elle se trouve par exemple au chapitre 1er de l'Épître aux Romains, au verset 4, et quand on dit esprit saint, c'est l'équivalent. Donc je mets esprit de sainteté pour faire un meilleur parallèle avec les autres sous-titres, mais c'est le même sens. Donc le thème est très très important. La sanctification, comme l'image du feu le suggère déjà, la sanctification est l'œuvre particulière du Saint-Esprit. Second aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13, cherchez la sanctification de l'Esprit. C'est l'Esprit qui est la puissance de Dieu à l'œuvre dans notre vie, pour nous détacher du péché, de tout ce qui attriste notre Dieu, attriste l'esprit précisément. Je trouve que c'est un thème très important sur lequel nous n'insistons pas assez. L'esprit qui nous est donné, qui nous donne la vie, qui nous fait sentir la présence de Dieu, cet esprit peut être attristé. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellé pour le jour de la promesse. Il me semble que trop souvent, nous nous contentons de dire « Est-ce que c'est permis ou est-ce que c'est défendu ?» Et nous devrions davantage penser « Est-ce que cela réjouit ou est-ce que ça attriste ?» L'Esprit qui est en nous, qui nous est donné. Donc, l'Esprit qui œuvre en nous dans le sens de la sanctification, d'une transformation qui nous rend de plus en plus semblables à notre modèle qui est le Seigneur Jésus lui-même. Cette œuvre de sanctification, elle s'opère en nous, mais non pas sans nous. Jésus, lui, a tout payé pour nous, sans nous. Nous n'y étions pas à la croix. C'est l'œuvre faite pour nous, mais l'œuvre en nous, elle ne se fait pas sans nous. Si c'est nous seuls, c'est l'échec. Mais si c'est l'Esprit, l'Esprit nous fait participer activement. Cela implique que nous fassions des démarches, que nous lui demandions son aide. Cela implique que nous recourions à la parole et à la prière et à la communion fraternelle qui est un instrument dont il se sert. Cela implique toute cette part active de notre part. Et ça implique des combats. Tout à l'heure dans le cantique, je vous confesse, le cantique que nous avons chanté, je me suis dit, est-ce que c'est vrai? Tout à fait vrai. De tout désir et convoitise mondaine, nous nous détachons sans peine, avons-nous chanté. J'avoue que sans peine, je l'ai chanté comme vous tous. franchement, c'est pas toujours sans peine. Mais c'est l'esprit qui donne la capacité. Et si nous chantons ça, disons que c'est comme un élan de confiance pour que le Seigneur nous prenne lui-même en charge dans notre faiblesse. Donc ça, c'est le troisième grand axe. Et le quatrième, alors, esprit de gloire. Il est appelé esprit de gloire, l'esprit de gloire qui repose sur nous dans la première épître de Pierre, au chapitre 4, verset 14. L'esprit nous est donné comme les arts de notre héritage à venir. Ça, c'est une image qu'on trouve dans d'autres versets encore. La gloire, c'est cette perfection qui est à venir, quand il y aura un resplendissement sans aucune limite, sans aucune gêne de la bonté de Dieu et que nous serons pris dedans, que nous brillerons de la lumière de Dieu. Ça, c'est ça la gloire. Et l'Esprit de Dieu correspond à un avant-goût, à des arts, à un gage par rapport à cet accomplissement qui nous est promis. Quand le Seigneur Jésus reviendra, nous participerons à sa gloire, et dès maintenant, l'Esprit nous fait goûter quelque chose à l'avance de cette gloire future. Nous commençons déjà d'être glorifiés en Christ par l'action de l'Esprit. Voilà le quatrième grand axe qui est important, qui nous rappelle que l'œuvre de l'Esprit est un dynamisme qui est orienté vers ce but, vers cette plénitude finale. Alors, se rappelant qu'il s'agit d'une marche, nous arrivons à la troisième partie, ça va, c'est tout vite, à la troisième partie de mon exposé, les moments de l'expérience de l'Esprit. Et là, comme je l'ai dit, je vais être très bref parce que éventuellement vous aurez des questions. Il y a un commencement à l'œuvre de l'Esprit dans la vie du croyant. Certes, l'Esprit étant actif dans le monde entier, et c'est lui-même qui soutient toute vie, même chez les animaux. Tu retires ton souffle, ils s'évanouissent, dit le psaume 104. Il y a une action de l'Esprit qui agit dans le monde pour convaincre, et donc l'Esprit prépare son œuvre avant même que nous soyons au Seigneur. Mais il y a quand même un commencement bien net de l'œuvre de l'Esprit dont nous avons parlé, de l'œuvre de l'Esprit vraiment reçue. Et cela, c'est au commencement de la vie chrétienne. Pour le témoignage du Nouveau Testament, je crois qu'on peut dire que c'est très clair, il n'y a pas de chrétien qui n'ait pas l'Esprit. Nous l'avons lu dans le chapitre 8 de l'Épître aux Romains, « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. » Point. Donc, ça veut dire que le don de l'Esprit se situe au commencement de la vie chrétienne, ou bien c'est pas la vie chrétienne. Le commencement, c'est de recevoir le Saint-Esprit, qui est le don par excellence, source de vie, force de sanctification, etc. Ça, je pense que c'est très clair, et c'est très clair aussi par le passage de l'Épître aux Galates, que j'ai déjà mentionné. Là, l'apôtre souligne que c'est par la foi, et rien que par la foi, qui est une réponse à la parole de Dieu, que nous recevons l'Esprit. Nul besoin d'autre chose, pas besoin d'un sacrement pour recevoir l'Esprit. L'Esprit est donné par la foi. Alors, il y a une autre expression que don de l'Esprit qui est parfois l'objet de malentendus. Et je crois qu'on peut montrer que le malentendu n'est pas nécessaire. Expression baptême dans l'Esprit. Le nom n'est pas utilisé tel quel dans le Nouveau Testament, mais l'expression « baptisé dans l'Esprit Saint » est utilisée par Jean-Baptiste pour annoncer la Pentecôte, par Jésus aussi, et puis il est repris dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 12, verset 13, « Nous avons tous été baptisés en un seul esprit pour former un même corps. » Alors, vous avez des chrétiens qui appellent baptême du Saint-Esprit une deuxième expérience, différente du début de la vie chrétienne. Je pense qu'ils se trompent. Ça a été un trait caractéristique de l'enseignement dit pentecôtiste, mais je signale qu'il y a pas mal de pentecôtistes, en tout cas de charismatiques, en tout cas leurs docteurs, qui aujourd'hui reconnaissent que, en fait, dans le Nouveau Testament, le baptême du Saint-Esprit se situe au début de la vie chrétienne de la Nouvelle Alliance. Il me semble que l'élément qui est propre à ce qu'indique l'expression, c'est la constitution en un seul corps. Donc on pourrait distinguer dans l'œuvre initiale le don du ciel, et puis l'œuvre qui nous unit tous les uns aux autres et au Seigneur pour constituer son corps. C'est un autre aspect de l'œuvre initiale du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous est donné, et du même coup, il nous unit les uns les autres, nous constitue en un seul corps. Cela ressort tout spécialement de la première aux Corinthiens. J'ajoute que je crois pouvoir dire, c'est un élément d'enseignement qui m'est peut-être un peu plus personnel, mais je pense que c'est biblique, que c'est un aspect de l'œuvre de l'Esprit dont les croyants de l'Ancien Testament ne pouvaient pas jouir, même d'avance. Les croyants de l'Ancien Testament, ils ont été sauvés comme nous, mais par avance. Et l'Esprit a agi en eux. Et le psaume 51 montre que David avait conscience que l'Esprit lui était donné. Et je pense que donc l'Esprit, bien que c'ait été encore voilé, parce que c'était par avance, l'Esprit était donné aux croyants de l'Ancien Testament. Mais il ne constituait pas encore un seul corps. Ça devait attendre la Nouvelle Alliance. Et donc l'aspect baptême du Saint-Esprit était réservé au temps de la Nouvelle Alliance, mais nous y sommes. Donc pour nous, le moment initial est le moment du don et baptême du Saint-Esprit. Alors ensuite, il y a habitation de l'Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. La présence de Dieu, l'Esprit, fait de du lieu où il se trouve un temple, car le temple, c'est la maison de Dieu, la maison où il habite. Et l'apôtre Paul dit clairement aux Corinthiens, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et même très intéressant, il le dit de deux façons. Les chrétiens sont le temple du Saint-Esprit collectivement. En tant qu'Église, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et chacun pour soi. Notre corps est le temple du Saint-Esprit, parce que l'Esprit réside en chacun de nous. Ce sont les deux éléments dans la même première épître aux Corinthiens qui ressortent à propos de ce thème. Alors, dans cette présence de l'Esprit, il y a une expérience particulière qui est mentionnée dans l'Écriture, celle de la plénitude du Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas la même chose qu'être baptisé dans l'Esprit-Saint. Baptisé du Saint-Esprit, c'est toujours quelque chose qui vient au début, ça ne se répète pas dans l'Écriture. C'est au début, une fois la Nouvelle Alliance fondée. En revanche, rempli du Saint-Esprit, ça se répète. Et alors, autrefois, j'ai écrit là-dessus, et je crois qu'il y a pas mal de gens qui sont maintenant d'accord, mais j'ai fait une découverte. J'ai découvert que dans le Nouveau Testament, il y a deux verbes et termes dérivés différents qui sont traduits dans nos versions courantes, l'un et l'autre remplis du Saint-Esprit. Il y a un verbe qui est utilisé lorsqu'il s'agit d'une présence constante de l'Esprit qui imprègne le caractère. Esprit rempli d'Esprit Saint et de foi, Esprit rempli d'Esprit Saint et de sagesse. L'Esprit Saint est là comme la sagesse ou la foi de manière permanente. Soyez toujours remplis de l'Esprit, dit dans ce sens l'apôtre Paul, c'est ce mot. Et puis il y a une autre plénitude qui est une plénitude qu'on pourrait décrire comme un soudain afflux d'énergie. Il fut rempli du Saint-Esprit et il dit, oui, face au Sanhédrin, face aux adversaires, celui qui parle au nom de Dieu, tout à coup reçoit une force particulière, il est rempli du Saint-Esprit et il dit. Et c'est pas le même mot dans l'original. Ce qui fait que je pense qu'on peut dire qu'il y a en fait deux plénitudes. La plénitude saturation, à laquelle nous sommes tous invités, qui devrait être notre condition constante. Ça n'empêche pas de commettre des péchés encore, mais c'est la marche dans la lumière avec le Seigneur. Et tous les péchés, à ce moment-là, lui sont confessés aussitôt. Et nous en sommes purifiés aussitôt dans cette plénitude, saturation du Saint-Esprit qui imprègne notre vie. Et puis, il y a ce don, selon que nous en avons besoin, d'un afflux, la plénitude plus soudaine et précise pour lui rendre témoignage, pour remplir le service au moment où cela est nécessaire. Et puis le dernier point, alors je le réserve à une prochaine étude, mais concerne les dons du Saint-Esprit, appelés aussi charismes. Ça, c'est aussi un élément de la manifestation du Saint-Esprit, mais spécial, qui se rajoute, et comme elle est très étroitement liée à la vie en Église, à la constitution du corps dans sa diversité, je compte l'étudier dans la prochaine étude qui concernera l'Église. Prochain fondement de la foi, donc à la rentrée. Voilà donc pour le sujet que nous avions à considérer aujourd'hui. Il reste, je pense, 2 ou 3 minutes pour quelques questions. Si, Monsieur Sidamon. Oui. Alors, donc la question c'est, on a utilisé ce texte de la première aux Corinthiens chapitre 10, baptisé pour Moïse dans la nuée et dans la mer, pour justifier le baptême des petits-enfants. Je compte, dans une prochaine étude, parler de la question du baptême des petits-enfants. En fait, je prévois à l'heure actuelle que la prochaine étude serait sur l'Église, en incluant baptême et Sainte-Cène, les fondements de la foi, mais que la foi d'après, je voudrais traiter plus spécialement pourquoi nous sommes baptistes, et en examinant les arguments de ceux qui ne le sont pas. Donc j'essaierai éventuellement de répondre davantage ce jour-là, mais pour l'instant je donne l'essentiel de la réponse. Ce qui est arrivé dans l'Exode, c'est une image, ça appartient au registre des types. Et la différence entre les types de l'Ancien Testament, c'est qu'ils s'appliquaient à un peuple charnel, auquel appartenaient donc les enfants par voie de naissance, alors que dans le Nouveau Testament, c'est le peuple spirituel dans lequel on entre par la nouvelle naissance. Mais nous aurons donc l'occasion d'y revenir. Oui, Christophe ? Première question, est-il juste de rapprocher de la doctrine du Saint-Esprit le texte du début de la Genèse, chapitre 2, en fait c'est le verset 7, donc sur l'insufflation de la laine de vie, du souffle de vie dans l'être humain formé de la poussière de la terre, selon la présentation imagée de ce chapitre. Je pense que le texte veut que nous soyons prudents à cet endroit, parce que ce n'est pas le mot pour l'esprit qui est employé. C'est un mot, c'est pour ça que certaines traductions ont le mot haleine, plutôt que le mot souffle, esprit. C'est un mot qui est très proche, mais qui semble spécialisé pour l'esprit de l'homme. Le mot pour l'esprit de Dieu, pour le vent, il est aussi utilisé pour le souffle de l'homme et pour le souffle même de l'animal. Mais le mot qui est employé dans Genèse 2, verset 7, il est spécialisé pour l'être humain. Et je crois que que Moïse, en rédigeant ce texte sous l'inspiration de Dieu, a voulu éviter que nous croyions qu'il y a une portion de Dieu qui fait partie de notre constitution. Ce serait du panthéisme. Nous ne sommes pas des petits dieux, même avec un fragment de divinité. Oui. C'est pour ça, je pense que ce n'est pas le mot esprit habituel pour l'esprit de Dieu qui est employé. Cela dit, je pense bien que même au plan de la vie naturelle, c'est l'esprit de Dieu qui permet à tous les êtres vivants créés d'être vivants. Dieu est présent. Comme le psaume 104, le dit. Et il y a un détail très intéressant par rapport à la question donc, qui a été posée. Lorsque Jésus souffle sur ses disciples en leur disant « Recevez Esprit Saint », le jour de Pâques, le soir de Pâques, Le verbe souffler est celui que la version grecque de Genèse 2 emploie. Comme si Jésus, c'est pas encore la Pentecôte, mais Jésus voulait montrer que la nouvelle création commence et que le souffle nouveau qui animera ceux qui participent à la nouvelle création, c'est son esprit, l'Esprit Saint, venant de lui. Donc ça, c'est la première question que vous aviez posée. La deuxième concerne donc la parole de Jésus, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Je crois que c'est l'Esprit qui fait que cela s'actualise, se concrétise dans notre propre vie. Il est le chemin, et il a donc ouvert ce chemin, et maintenant nous empruntons ce chemin par l'Esprit, marchant, conduit par l'Esprit. Et pour la vérité et la vie, il est l'Esprit de vérité, qui illumine les yeux de notre cœur pour que nous recevions cette vérité, qui nous donne de croire, et il est lui-même la vérité. Nous avons dans la première épître de Jean, chapitre 5, la formule « Et l'Esprit est la vérité ». Donc la vérité, c'est bien lui qui nous l'applique. La vérité qu'est le Christ nous devient intérieure par l'Esprit, et de même pour la vie. Là, le lien avec la vie, nous l'avons fortement souligné. Alors, je pense, c'est peut-être la dernière question, je crois, puisque c'est l'heure. Hein, mais... Que penser de l'expression « puissance active de Dieu » employée par les témoins de Jéhovah ? Tel qu'il l'emploie, je pense que c'est une formule trompeuse, parce qu'il l'emploie pour nier qu'il s'agisse d'une personne divine, au sens strict du terme. Autrement, l'expression est assez floue en elle-même. Puissance active de Dieu, et on pourrait l'accommoder à ce qui est vrai bibliquement du Saint-Esprit. C'est bien vrai que c'est l'agent de la divinité, Dieu à l'œuvre, actif dans notre monde et avec puissance. Et donc, vous voyez, l'expression pourrait être employée. Ce qui est malencontreux chez les témoins de Jéhovah, c'est l'intention doctrinale qui est de nier la Trinité. Bon, j'avais dit que c'était la dernière question, mais comme c'est notre chef de chorale, on ne peut pas... Il y a de l'autorité, alors j'ose pas. Stéphane. Oui, oui. Oui. Donc, notre frère, M. Stéphane Patin, nous cite le psaume 133 avec cette magnifique vision de la bénédiction comme l'huile sainte qui descend par l'onction qu'il a reçue le long de la barbe d'Aaron, de son vêtement. Et c'est la bénédiction qui vient sur la communauté des frères et sœurs réunis. Alors, le Saint-Esprit n'est pas nommé, mais je crois bien que c'est bien le Saint-Esprit qui... et l'auteur de cette bénédiction. D'accord. Notre sœur Antoinette, oui. Je ne pense pas qu'il y ait un ordre unique, semblable, pour tous les chrétiens. En tout cas, je ne l'ai pas remarqué, je ne me suis pas vraiment posé la question, je vous l'avoue. Peut-être y a-t-il des symboles de l'esprit qui prennent plus d'importance à mesure qu'on chemine dans la vie chrétienne, qu'ils se révèlent davantage sous un angle ou sous un autre. Mais je pense que ça doit dépendre surtout de la personne. Dieu adapte sa pédagogie à chacun de nous de manière tout à fait admirable. Donc, je préfère dire qu'il n'y a sans doute pas un ordre fixé pour tous, mais c'est vrai que chacun, pour soi, peut faire la découverte dans un ordre différent. Merci. Bon, merci bien pour votre attention, donc.